Bon, alors, je vais commencer par vous demander tous les deux votre date de
Attendez,
naissance, s'il vous plaît. Oui?
est-ce qu'on peut pas faire parce que elle va partir, tu peux partir dans.
Écoute, 1 heure, ça va suffire ou pas? On
Est-ce
verra
qu'il vaut
bien,
pas
c'est pas.
mieux l'interroger elle d'abord et puis moi après? Non?
Attendez, je vais poser
Vous
une.
gagnez la.
Voilà, alors je vais vous demander
À tous les deux, notre date et notre lieu de
date et lieu de
naissance.
naissance, s'il vous plaît.
Donc, moi qui suis la plus jeune, je suis née le 4 mai 1949 à Paris,
À
dans le
Paris,
15e.
dans quel
Dans le
quartier?
15e.
15e. Et vous,
Moi, je
monsieur?
suis né le 9 octobre 1946 à Bénissaf, Beni-Saf, en Algérie.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur vos familles d'origine?
Moi, je viens d'une famille par mon père, petite bourgeoisie française, petite moyenne bourgeoisie française. Par ma mère était danoise. Ils représentaient tout à fait. Ils ont été au Parti communiste après la guerre. C'était ce qu'on appelle les intellectuels de gauche.
Oui.
Mon père a été résistant, déporté,
Oui.
et a adhéré au PC après la guerre. Et ma mère aussi, ils ont été très militants toute ma petite enfance jusqu'en 57. Voilà, mon
Et qu'est-ce qui
père.
s'est passé en 57?
En 57, comme. C'était 56 ou 57? C'était pas tellement par rapport à Budapest. En fait, c'était aussi, essentiellement d'ailleurs, sur. Bah, la rupture qu'il y a à ce moment-là, mais sur la thèse du PC, sur la prolétarisation, enfin, sur un désaccord. Bon, j'ai pas tellement envie de
D'accord,
m'attarder là-dessus.
d'accord.
Mon père écrivait dans l'économie et politique, et qui était dans cette revue française du PC. Et donc, ils sont partis comme énormément de leur. Enfin, ils ont quitté le PC à ce moment-là, comme énormément de leurs proches.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il
Et
faisait?
qu'est-ce qu'il faisait? C'est ça. Mon père était normalien, donc il avait fait énarque, donc il avait fait deux grandes écoles
Oui.
françaises. Il a été au Quai d'Orsay pendant un temps. Il a fondé la cellule du Parti communiste du Quai d'Orsay avec des gens comme Claude Alfandéry. Et en fait, il a quitté le Quai d'Orsay dans les années 50 parce qu'on les. On les mettait au placard en fait.
Oui.
Et il est rentré. Il a travaillé chez Renault pendant une dizaine d'années.
Oui.
Et ensuite dans une banque qui appartenait à des gens de gauche, en fait, voilà, qui avaient été au
D'accord.
PC.
Et
Je suis
votre
désolée,
mère
je
a
suis un peu.
travaillé?
Et ma mère a travaillé relativement brièvement comme assistante sociale,
Oui.
entre 50 et 58 à peu près. Puis après, elle a travaillé un petit peu dans l'édition et plus longuement aussi comme technicienne du CNRS, après une interruption pour élever ses enfants de quelques années.
D'accord. Et vous, monsieur?
Alors, mon père et ma mère, donc, ils sont tous les deux originaires enfin, des Français d'Afrique du Nord qui
Oui.
d'origine espagnole.
Oui.
Tous les deux dans la région d'Oran. Mon père a donc fait des études jusqu'à une licence de droit, il est devenu instituteur, puis directeur d'école, et c'était aussi un militant de gauche, donc en Algérie, et donc il a été syndicaliste, et puis maire de son village,
Oui.
où il a pris en fait la succession de son père, son propre père, qui était déjà maire du village.
D'accord.
Et puis au moment donc de la guerre d'Algérie, il s'est distingué par une attitude politique de type Camus, c'est-à-dire qu'il
Oui.
n'était ni pour l'indépendance de l'Algérie, ni pour le statu quo. Et il s'est retrouvé très vite, il était conseiller général aussi à ce moment-là,
Oui.
très vite en pointe comme un des opposants à l'OAS.
Oui.
Et donc il a été condamné à mort par l'OAS, il y a eu plusieurs attentats contre lui. Voilà, donc après l'indépendance, il est resté en Algérie.
Oui.
Il a continué à diriger une école, un collège d'enseignement agricole, enfin il a continué à construire des choses. Et puis ils ont fini par rentrer en France. Entre deux, donc, il nous avait, nous, les trois enfants, il nous avait envoyé en France, pour continuer nos études.
D'accord. Donc vous, vous êtes arrivé en France à quel moment ?
En 61. Donc j'avais 15 ans et c'était un an avant la,
oui,
avant l'indépendance, en plein, au moment le pire de, pour mes parents, parce qu'ils étaient donc menacés
d'accord,
par l'OAS.
Et qu'est-ce que vous avez fait comme études ?
Moi ?
Oui.
Je vous parle de ma mère d'abord.
Oui, allez-y, juste mon père. Non, votre mère aussi, oui, en soi.
Ma mère, elle était postière, puis oui, aussi institutrice, et elle a, avec mon père, donc, elle est restée dans le village, elle est devenue directrice aussi d'école et puis de collège d'enseignement ménager. Donc voilà, elle a suivi mon père dans cette trajectoire. Moi, je suis parti à 15 ans, donc, d'Algérie, et j'ai fini, j'ai passé mon bac en France.
Oui.
Et puis j'ai fait les classes préparatoires et je suis devenu normalien en maths.
Et vous étiez au lycée à Paris ou en France ?
Voilà, à Paris, au oui, lycée La Canale, puis au lycée Louis le Grand.
D'accord. Et donc vous êtes entré avec en normal en quelle année ?
En 66.
66. Donc, et vos études ?
Moi, j'ai fait une classe préparatoire en 67-68, et puis ben, ça a été le mois de mai, donc ça a totalement interrompu mes études universitaires.
Oui.
Donc, je m'apprêtais à entrer en CAGN, je souhaitais aussi préparer l'école normale supérieure. Et en fait, je suis partie, moi, à ce moment-là, j'avais 19 ans, c'était 68, et on est parti, en fait, enfin, on s'est trouvé dans le Nord. On en parlera oui, peut-être tout à l'heure.
Oui.
Et donc, en termes d'études, j'ai fait un peu de philo, mais vraiment très, très peu. Et après, j'ai repris des études en sciences de l'éducation 10 ans après, de façon assez dilettante, on va dire. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment, j'ai une trajectoire totalement interrompue par 68.
D'accord. Mais avant 68, vous étiez au lycée
J'étais au lycée La Canale, après le bac, encore pendant un an. Donc, dans ces classes un peu. Enfin, c'est les classes pour préparer les grandes écoles.
C'était La Canale, c'était un lycée mixte.
Et c'était un lycée de garçons où, exceptionnellement, en prépa, quelques filles étaient acceptées après le bac.
Les classes qui étaient après le bac étaient mixtes.
D'accord.
Il y avait très 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 peu de filles. D'où ce choix. J'ai fait mes études en fait au lycée de filles Victor Duruy avant.
D'accord.
Qui était un des lycées du 7e arrondissement, très bourgeois. J'étais en classe avec Françoise de Panafieux et ce genre de gens.
D'accord.
Beaucoup d'enfants de ministres dans ce lycée.
Et
les servants Schreiber.
Oui, entre autres. Beaucoup d'autres.
D'accord. Alors, nous arrivons à votre engagement politique, tous les deux. Comment ça s'est passé ?
Alors, moi en fait, je suis rentrée aux Jeunesses communistes à 15 ans. J'étais très... comment dire, très passionné, très. Un fort désir d'engagement.
Oui.
Alors que mes parents donc, ne l'étaient plus, effectivement, mais je baignais dans un milieu d'intellectuels de gauche où les idées, enfin, les débats politiques étaient l'apanage de tous les repas quasiment familiaux.
Chez vous
et chez nous.
À l'école.
Oui, chez moi, oui. Chez moi, mais aussi, en fait, mes parents étaient très liés avec le frère de ma mère et la sœur de ma mère. Ils étaient tous dans cette même mouvement politique.
Oui.
Donc d'abord au PC où mon oncle est resté, et en tout cas tout leur cercle d'amis baignait là-dedans. Moi, je suis rentrée aux Jeunesses communistes où j'ai fondé deux amis la cellule de Jeunesses communistes de ce lycée très 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 bourgeois.
Oui.
Et où je sais pas jusqu'à où il faut détailler parce que ça me ramène tellement loin en arrière. Voilà, et c'était donc en 64.
En 64 déjà.
Oui.
Et donc c'était plutôt le milieu familial qui vous a poussé.
C'était le milieu familial et en même temps une espèce de reprise de flambeau, si vous voulez, oui, hein, puisque mon milieu familial était bien loin de... à cette époque-là du Parti communiste, où moi j'ai choisi de rentrer. Pourquoi au Parti communiste? Parce que je pense que j'étais quand même très baignée dans une littérature. En même temps, mes parents m'avaient donné beaucoup de livres à lire, genre Un homme véritable, qui était une espèce de livre de l'homme soviétique, là, la Bible de l'homme soviétique. J'étais baignée, beaucoup, très très baignée là-dedans.
C'est un livre soviétique?
Ouais, entre autres, j'ai lu Les communistes d'Aragon quand j'avais 14 ans, j'ai lu je disais Sartre, Le chemin de la liberté, tout ça, et en fait j'étais toujours du côté de ceux qui devaient. J'avais un fort désir de mettre en pratique ce que je pensais et ce que je vivais, mais je pense que tout ça relève beaucoup plus de la psychanalyse que de l'histoire. Et donc là, on rentre dans des choses qui seraient vraiment compliquées, parce que là, entre le regard que que j'ai maintenant là-dessus, et le regard de l'époque, c'est très complexe, évidemment. Mais disons que j'avais ça, cette soif d'engagement. J'étais une jeune fille extraordinairement timide, renfermée. J'aurais aussi bien pu rentrer dans un... être très très catho, par exemple, c'était assez, ça relevait aussi pas mal de j'ai toujours été absolument athée, mais je faisais une espèce de cheval de bataille. J'aurais pu être, voilà, si j'avais été catho, j'aurais adhéré avec la même virulence. Donc ça a duré 2-3 ans, puis après ce qui s'est passé en France, c'est que donc il y avait la guerre du Vietnam, il y avait donc toute l'opposition autour de quoi penser de la guerre du Vietnam, entre les slogans paix au Vietnam, FLN vaincra. Donc là, j'ai été en contact au lycée avec une camarade de classe qui était déjà pro-chinoise, donc c'était en 66-67, qui a induit le doute dans mon esprit. Je ne faisais pas le saut de rentrer au PC. Hein. Les jeunesses communistes et le PC, c'était quand même pas tout à fait la même chose. Donc je faisais des stages l'été. Hein. J'apprenais à faire des tracts. Oui. J'avais le lien avec les grands dirigeants du parti qui venaient nous parler du Vietnam.
Un voyage en Yougoslavie.
J'allais en vacances avec un truc qui s'appelait l'UFOVAL, qui était les organismes comme ça des jeunesses communistes. Et donc c'était pas non plus. J'y étais pas comme y étaient d'autres gens que je connais, parce que leurs parents étaient encore au PC. Moi, mes parents n'étaient plus du tout là-dedans. Donc, ça, c'était. Voilà. Et puis, ce débat sur le Vietnam m'a laissé totalement indécise, jusqu'au moment où je suis rentrée à la Canale, où là, effectivement, j'ai rencontré au lycée un groupe de garçons, puisque, en particulier, qui étaient, eux, adhérents du JCML. Donc, ça, c'était en 67-68. Et qui était dans les CVB, donc dans les comités Vietnam de base, et où j'ai fini moi aussi par adhérer. Et donc en fait, j'ai fait ce mouvement pendant toute l'année 67-68, et j'ai voulu adhérer à l'UJCML en 68, au moment où il se dissolvait.
D'accord. La fille qui vous a amené vers...
les pro-chinois.
Les pro-chinoises, c'était qui?
Une camarade de classe qui n'était pas spécialement une amie d'ailleurs, d'un milieu plutôt modeste, je me souviens. Oui. Je me souviens de son nom, je ne l'ai jamais revu après, Annick Lemoyle. Et elle avait rencontré un mec, son copain l'avait amené là. Mais il n'y avait pas qu'elle, je pense à elle, mais j'avais une autre amie qui maintenant est bien loin de tout ça, qui aussi avait été en contact par le milieu universitaire avec cette frange de gens qui étaient plutôt du côté pro-chinois.
Parmi les types, il y avait quelqu'un en particulier?
Non, moi j'étais amoureuse pendant toutes ces années-là d'un catho fervent qui était lui, qui habitait pas à Paris et qui militait à la GEC. Donc en fait, j'ai des correspondances terribles au sujet de l'existence de Dieu, donc qui se feraient peut-être ou non. Nos sentiments non déclarés passaient à travers...
D'accord. Non, mais il y avait quand même une convergence entre certains catholiques de gauche et certains gauchistes, non?
Oui, mais là, c'était plutôt sur l'opposition, même sur le sujet justement de la guerre du Vietnam, où ils défendaient les Américains, par exemple. Et j'ai encore des lettres entières. Donc, il n'y avait pas de convergence de vue, ça se vivait dans la douleur. Mais aussi, c'était très platonique, donc finalement...
Et vous, monsieur, votre engagement politique?
Oui, donc moi, j'ai faisant des études de maths et tout ça au lycée de Louis le Grand, donc à ce moment-là.
Oui.
J'avais pas beaucoup de temps à penser à autre chose, mais quand même, mon premier engagement politique, enfin j'avais évidemment tout l'arrière-fond de ce que faisait mon père en Algérie, qui restait oui. Tout ça. Mais mon premier engagement, ça a été de me battre avec l'UEC, donc à l'époque. Pardon, oui. Avec, pas l'UEC, l'UNEF, donc le syndicat étudiant, oui. Sur le slogan une allocation d'études pour tous. C'est-à-dire, l'idée, c'était, ce que oui. Défendait l'UNEF à l'époque, c'est que les étudiants devaient avoir tous une allocation, qu'ils soient d'ailleurs de famille riche ou de famille pauvre, parce que c'était le moyen pour des jeunes d'être indépendants. Et,
oui.
Et donc moi, je me suis pris à ce jeu-là de militer, et donc voilà, d'essayer de convaincre mes camarades de lycée, tout ça, qu'il fallait aller aux manifs et tout ça sur ce slogan-là. Et donc, dès que je suis rentré à l'école normale, mon oui. premier geste, ça a été d'aller adhérer à l'UEC, puisque j'avais découvert la débilitante de l'UEC, que je trouvais que c'était très bien de militer comme ça. Et quand je suis allé voir la cellule de l'UEC, donc de l'école normale, en leur demandant d'adhérer, ils m'ont dit « Ah, pas de chance, on est en train de quitter l'UEC. »
Oui, c'est ça, oui.
C'était la scission des maoïstes oui. à l'école. Et donc j'ai dit, ben, je pars avec vous, ça m'est égal, ou que vous alliez, voilà. Et donc je suis devenu militant de l'UJCML, sans trop savoir où j'allais, quoi. Hein.
Oui, et les camarades du UJCML, à l'époque, c'était qui pour vous?
Oh, ben c'était toute la bande. Enfin, les noms, c'était qui? C'était Betrema, c'était...
Tiens, ben il y a Toulouse, lui.
Comment il s'appelle
Besbuch.
Non, ouais, je n'y étais pas.
Sam.
Non, qui était où qui est...
bon, il y avait Robert Linhart, en tout cas, il y avait tous
oui,
ces gens-là.
Oui, il y avait les grands chefs, mais les grands chefs, je les voyais peu. Hein.
Oui, d'accord.
Je voyais donc les petits chefs de l'école normale.
C'est là où vous avez connu Olivier Rollin.
Non, non, bizarrement, Olivier Rollin, il n'était pas encore, c'est ça?
Si, il est rentré en 67, mais d'abord il y avait un an de différence, puis il était en lettres et vous étiez en maths.
Il était en lettres, et moi un an après, c'est vrai que j'étais déjà...
On l'a rencontré après, Olivier, on l'a rencontré vraiment à la gauche prolétarienne.
D'accord, d'accord. Alors, ça s'est passé comment le 68 pour vous tous les deux?
Ben moi, j'étais donc dans ce lycée La Canale et. Enfin, je ne sais pas jusqu'où vous voulez. Ça s'est passé comment? C'est-à-dire?
Non, mais c'est-à-dire que. Au point de vue, soit vos activités, soit. Les contacts, soit votre trajectoire à travers, pendant votre...
Alors donc déjà, on diffusait un journal qui s'appelait, comment ça s'appelait, La Cause du Peuple déjà. Moi j'avais commencé à faire du porte-à-porte dans les bidonvilles de Massy. Ça je pense que c'est une expérience absolue. En fait, quand je suis rentrée au JC, une des raisons qui font que j'étais très très hésitante, c'est que ce qu'on me disait aux jeunesses communistes, c'est « reste dans ton lycée bourgeois ». Moi j'avais donc, quand je parlais de mes aspirations qui auraient pu être catholiques, c'est que j'avais une aspiration à... vivre comme les pauvres, on va dire.
Oui.
Connaître les pauvres, j'avais l'impression d'être enfermé dans un milieu, malgré l'engagement intellectuel de mes parents, je naviguais entre le 7e arrondissement et le 14e. J'étais nourrie de toute une littérature, y compris des éditions sociales, quand j'étais toute petite, qui me faisait aspirer très profondément à connaître le monde et ses... aussi misérable qu'il était, oui. et ça, enfin, ça me dit, enfin, voilà, pour moi, ça a été quand même une des sources de mon engagement, cette histoire-là, et quand je disais, je pense que j'ai été profondément perturbée par le fait que mes parents, effectivement, se gargarisaient, ça c'est mon point de vue de maintenant, c'était pas mon point de vue d'époque, se gargarisaient de grandes idées et de grands sentiments, de bons sentiments, oui. Mais qu'en même temps, dans leur vie quotidienne, voilà, ils vivaient vraiment tout à fait en dehors de tout ça, et moi, je voulais aller, je pense que c'est une des choses qui me fondait, que j'ai trouvé à l'UJCML, en allant en particulier... Moi, j'étais dans la région de Sud, Châtenay-Malabry, à Massy, etc. Quand le mouvement de mai a éclaté, bon, ça, je m'en souviens effectivement comme si c'était hier, hein, le 3 mai, on était... Quand on est à la Canale, on est un peu loin de Paris, je n'étais pas à la Sorbonne, mais on était quand même étudiants à la Sorbonne en même temps, donc
ouais.
Ça a éclaté comme un coup de tonnerre, même si on avait vu les manifs du 22 mars et tout ce qui a précédé pendant l'hiver, et... Et moi, j'ai été. On a occupé très vite, me semble-t-il, le lycée.
Oui.
J'allais à Paris, à la Sorbonne, mais pas... En tout cas, j'étais très, très d'accord avec la position de l'UCML qui était tellement contestée, qui était tous aux usines. Pour moi, effectivement, moi, je n'étais pas du tout sur les positions... Je pensais que les étudiants étaient tous de toute façon des privilégiés qu'ils ne m'intéressaient pas tellement le moins du monde. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment le monde ouvrier. Et cette idée qu'il fallait aller aux usines et qu'il fallait que c'était que ça qui comptait, je partageais ça tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai donc voulu rentrer à l'UCML à ce moment-là. Voilà. Après, tout s'est passé très très vite. Hein, donc,
Alors, votre contact avec les banlieues, c'était par la vente de ce journal ou, parce qu'il y avait aussi des établis à ce moment-là.
Alors, la ligne d'établissement, ça a été discuté cet hiver-là. Il y a eu quelques établis à partir d'effectivement, je crois que c'était 66-67, on les a connus après. À l'époque, c'était quelque chose qui me séduisait énormément, mais enfin, je n'étais pas du tout prête à faire le pas, et j'en savais assez peu de choses, hein, puisque c'était quand même, étant donné que c'était très clandestin, hein, c'est-à-dire que les établis devaient être totalement protégés par un grand secret, donc je ne savais pas trop. Mais en tout cas, c'est évidemment ce qui pouvait me séduire dans ce mouvement, oui.
D'accord. Et vous ?
Eh bien moi, donc après, je suis rentré à l'UCML, moi ça a été un itinéraire vraiment en droite ligne, quoi. Hein. J'avais l'impression que c'était aussi simple que des théorèmes de maths. On se mettait à crier FLN vaincra sur la base de toute une analyse des rapports de force entre l'impérialisme et le reste du monde, tout ça. Et puis effectivement, il y avait la victoire du tête, etc. C'est-à-dire ce qu'on déclarait comme étant une espèce de... Oui, de slogans auxquels peu de monde en France croyait, finalement, que le FLN allait gagner. C'est pour ça que les gens criaient plutôt le thé au Vietnam. Donc, nous, on criait ça sur la base d'une réflexion rationnelle.
D'une analyse scientifique.
Analyse scientifique du monde. Et puis, ça marche, quoi. Et puis ensuite, moi, je suis allé en Chine, c'était en 67, donc.
Ah oui.
Avec les associations franco-chinoises. Il y a eu un voyage de chef et un voyage d'une vingtaine de militants de base qui devaient...
De base et moins de base.
Donc c'était beaucoup de Normaliens d'ailleurs, effectivement, parce qu'il fallait avoir un peu d'argent. C'est-à-dire qu'on avait payé le voyage sans savoir si on allait y aller. Hein. L'idée, c'est ceux qui pouvaient payer, et puis on voyait combien de personnes pouvaient partir. Et donc j'ai fait partie de ceux qui sont partis. Donc on a passé un mois en Chine, etc. La révolution culturelle, tout ça, on a découvert.
Ça fait quelle impression sur vous ?
Ah, c'était extraordinaire parce qu'on était
manque absolu
complètement. Ouais, on était complètement enthousiasmés. L'idée, on voyait tout à l'aune de Pékin Information, etc. Donc l'idée qu'effectivement, enfin, les intellectuels, les ouvriers, les paysans étaient unis, faisaient les choses ensemble, etc. On a eu deux, trois petits doutes, quoi, quand on allait dans une usine et qu'on voyait l'armée partout, on s'en posait la question, mais pourquoi l'armée ? L'armée, c'est les représentants du peuple, etc. Donc, voilà, on a manifesté en gueulant Abba Liu Shaoxi, Abba Deng Xiaoping, enfin bref. On était complètement enthousiastes là-dedans, on a été dans une commune populaire, on a travaillé, on a été dans une usine, on a travaillé, enfin bon. On est revenu complètement enthousiasmé de ça.
Oui.
Et puis voilà, l'année 68 a commencé avec des grèves ouvrières très fortes. Et puis comme c'était le mot d'ordre justement d'établissement, il fallait aller vers les usines, etc. Et effectivement, les usines se mettaient en grève. Et donc, quand mai 68 est arrivé, c'était forcément parce qu'on était toujours dans la bonne ligne et qu'effectivement on allait faire la révolution. Donc moi j'étais à l'école normale, donc j'étais en plein quartier latin et donc j'étais dans les toutes premières barricades dès le 1er mai ou je sais plus, même avant.
Quoi ?
C'était le 3 mai ou je sais plus. Enfin, dès que ça a démarré, j'étais dedans. On faisait des comités, je sais pas quoi. Là il y a eu un petit problème avec notre direction, qui était, elle, totalement paranoïaque sur le fait que tout cela s'était fait pour venir emprisonner tous les militants du JCM. Alors donc nous on était deux ou trois à pas du tout être d'accord et à trouver que c'était ridicule de ne pas mais on a obtenu l'autorisation nous d'aller nous battre les 24 comme représentants du JCML dans les luttes étudiantes.
Bon. D'accord.
J'ai pu participer au 10 mai tout ça en pleine adéquation avec mon mouvement.
Parce que pour la direction, mai 68, c'était un truc petit bourgeois ou un truc contre-révolutionnaire, c'était quoi?
C'était un peu plus compliqué que ça. C'était l'idée que le mouvement étudiant était en train de rejoindre le mouvement ouvrier. Oui. Ce qui était important, c'est ce qui se passait dans les usines. Oui. Et l'agitation qu'on faisait dans les facs était en train de produire ses effets. C'est-à-dire qu'on allait de plus en plus... Bon. Mais les premiers jours de mai 68, Linhart...
Vous voyez qui c'est, Robert Linhart?
C'est Linhart qui l'a vécu comme ça, hein, dans un truc qui était un peu parano, qui était... Oui.
Qui était totalement délirant.
Pas encore complètement délirant, mais qui était de dire, bon voilà, tout ça c'est une manœuvre des flics pour coincer les étudiants dans le quartier latin, oui. Les faire se battre à la Sorbonne, alors que c'est pas là qu'il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils se battent dans les banlieues. Oh, et donc nous, militants du JCML, nous n'allons pas rentrer dans ce piège. Donc nous n'allons pas participer à ce combat. Mais nous allons plutôt expliquer aux étudiants qu'il faut qu'ils s'en aillent, qu'ils quittent le quartier latin.
D'accord.
Tous à Saint-Denis.
Voilà. Bon, donc moi j'ai échappé à ça, donc j'ai pu vraiment vivre ça pleinement. Et puis, donc pour moi ça a été absolument extraordinaire, évidemment. Hein. Oui. Ça faisait quand même 2 ans que je militais, bagarré pour que quelqu'un m'écoute. Et puis là, on arrivait au bout de son boulevard Saint-Michel, on commençait à parler un peu fort. Il y avait 20 personnes, 30 personnes, 100 personnes. On disait, alors, allez, on va à tel endroit. On partait à 200. On arrivait, on était 2000. Enfin, c'était le site, quoi. Hein. Et non, mais c'est vrai, ça avait un côté absolument magique de mouvement de masse comme ça. Et donc, voilà, on avait l'impression de participer à l'histoire, tout.
Mais vous êtes parti à Flins ou dans les banlieues, dans les usines?
Alors, évidemment, quand le mouvement ouvrier a démarré, là, on a repris, enfin, tout le JCML a repris son activité de façon extrêmement efficace, quoi. Donc oui, j'étais à Flins, on a été à... Enfin, j'étais surtout dans l'usine où, d'ailleurs, Linhart s'est établi un an plus tard, la Citroën choisie.
Oui.
Voilà, donc j'avais mon quartier, etc.
On avait tous des points.
On avait les Ronéo qui tournaient à plein, on faisait toutes les grosses manifs, voilà. Donc on a vécu tout 68 comme ça. Jusqu'à la fin, donc, du mouvement, et là, la décision, donc, de l'UCML de faire ce qu'on appelait les longues marches.
Oui.
Autrement dit, donc de rester mobilisé tout l'été, l'idée étant qu'il fallait mobiliser les paysans, parce que c'est ça qui manquait quand même.
Oui.
À un moment, bah oui, c'était important quand même, les paysans. Et donc il fallait que les paysans rejoignent les ouvriers qui, à partir de là, en septembre, on s'était repartis, et là on allait vers la révolution.
Donc vous êtes allé
Donc je suis allé dans le nord, parce que c'était quand même un des endroits où il manquait de monde. Et dans le nord, du côté d'Arras, et là, on, d'abord dans un
truc... En fait, c'est là qu'on s'est connus. Il faut quand même raconter ça, c'est un peu...
Là, nos histoires se rejoignent.
Oui, voilà. Jusqu'à présent, c'était séparé.
Puisque donc, c'est dans ma chambre, à l'école normale, que se faisait le dispatching des gens pour la longue marche.
D'accord.
Donc, c'est là qu'il y avait les responsables de l'UCML qui disaient, attends, où est-ce que tu veux aller? Qui voulaient aller à Biarritz, d'autres. Mais nous, on...
Pas la race, mais flot.
Et puis, bon, voilà, et puis, eh ben, tu vas à tel endroit et on t'emmène dans telle adresse, etc. Enfin, donc, c'est comme ça que ça s'organisait. Et donc, dans la file, on s'est retrouvés tous les deux et on est partis tous les deux dans le nord et donc on est partis dans la même voiture.
C'est l'été de 60.
Ouais, c'était tout début juillet. Moi, j'étais déjà partie une fois à Dunkerque, ça s'était très mal passé d'ailleurs. Avec des loubards, en fait, j'étais partie des loubards de Châtenay-Malabry, parce que la jonction avec le Lumpen prolétariat s'effectuait déjà pas mal.
Oui.
Ils avaient commencé à piquer des voitures à Dunkerque, on nous avait rapatriés d'urgence, donc c'était mon deuxième mon deuxième départ. Alors moi, je voulais bien partir l'été, mais enfin, j'étais encore dans cette trajectoire de rentrer à Fénelon, de continuer mes études qui enfin me plaisaient. Donc on est et en même temps, on s'est effectivement vraiment par hasard retrouvé dans cette voiture. Mais il y avait donc une logistique assez qui nous prenait en charge à l'arrivée, qui nous répartissait sur les unités.
Mais qu'est-ce que vous avez fait pour contacter les paysans et quel genre de paysans?
Alors là, c'était vraiment
pas triste. Ça se trouvait dans une maison qui était la maison d'un.
Enfin, toi, d'ailleurs, pas moi.
D'un parent d'un militant.
Ouais.
Et où on
qui
était
avait des
dizaine,
attaches paysannes.
On était une dizaine qui était là.
À glander toute la journée.
D'agiter les paysans. Alors la seule chose qu'on essayait de faire, c'est d'aller au bistrot le soir pour discuter avec eux, faire une belote de temps en temps. Mais on ne comprenait rien à ce qu'ils disaient parce qu'en plus ils parlaient avec un très fort accent ch'timi. Et donc, et eux, de toute façon, tout le village,
oui.
Sauf les gens, les poivrons du bistrot, se méfier, considérer qu'on était une bande de
hippies,
avant hippies qui couchaient tous ensemble, etc. Et, on, oui. Et ils nous regardaient vraiment comme des menaces et comme des
oui,
étrangers
tout autour. Ils ont vu tout ça à la télé, quoi.
Donc on était là complètement isolés de tout contact intéressant possible.
Et on allait faire quelques sorties. Moi, j'étais pas avec lui à ce moment-là, d'ailleurs, parce que quand on est arrivé dans la même voiture, mais on était dispatchés différemment. Moi, je me suis retrouvé à Douai, où il y avait une grosse usine qui s'appelait l'Arbel, qui était une usine de bagnoles, hein, d'accessoires de bagnoles. Et on faisait, on glandait dans des appartements où on tchatchait toute la journée sur la Révolution. Mais en fait, ce qu'on faisait, c'est quelques diffusions de tracts. Alors après, il y avait aussi les mines, c'était dans la région des mines. Donc de temps en temps, on allait aussi à 4-5 heures du matin diffuser des tracts au puits de mine.
Oui.
Mais enfin, c'était quand même.
Voilà, et vers la fin de l'été.
Alors, et alors, il y avait effectivement des établis quand même. Alors tout ça, c'était pour soutenir les gens qui s'établissaient.
D'accord.
Parce que à l'arrivée, voilà, on décidait de. Il y avait ceux qu'on établissait et sur lesquels il fallait faire une espèce de cordon sanitaire pour qu'ils ne soient pas repérés, etc. Et puis, comment on appelait ça, les sorties de. Ça va, non, j'ai même oublié ça, quoi. Quand on les commandos de l'extérieur, quoi, les commandos d'usine, les sorties d'usine, nous on était. Et on a passé l'été comme ça.
À préparer la rentrée. Donc, à la rentrée, ce qui devait se passer, c'est qu'à Arras, où on avait un établi qui était Jean Chiavot, grand dirigeant de la gauche prolétarienne.
Oui.
Jean Chiavot avait une théorie très simple. Il était, lui, dans une usine qui s'appelait
la Maille.
La Maille, qui était une usine de textile.
Oui.
Et la Maille faisait partie de la même groupe d'entreprises que des usines lyonnaises, Rodi Aceta, etc.
Oui, d'accord.
Et donc l'idée, c'était on fout en grève la Maille, ça met tout le secteur en grève et c'est reparti. C'est-à-dire, donc la révolution, c'est nous qui allions la redémarrer. Puisqu'on n'avait pas réussi avec les paysans, au moins on allait réussir ça. Et donc là, la question qui nous a été posée à Anne, à moi et à tous ceux qui étaient venus comme ça pour une longue marche l'été, c'était... Il faut rester parce que sinon on ne peut pas faire la révolution. On va rater le truc.
Et les études entre temps.
Alors donc voilà, donc là il fallait prendre la décision, soit on restait, on devenait militant professionnel, soit on revenait à Paris, on redevenait.
Et on était des prêtres.
Étudiants petits bourgeois.
Prêtres.
Et donc nous on a décidé de rester tous les deux. Moi enfin, c'était plus facile.
On n'était pas ensemble, hein.
On ne vivait pas ensemble.
On ne vivait pas ensemble et on n'était pas ensemble. Enfin il n'y avait rien entre nous à ce moment-là. Et donc Bernard, lui, il était payé par l'école normale. Donc
oui,
en plus, c'était une manne.
En tant que normalien, j'avais déjà ma paye. Donc
en fait, les salaires, le salaire d'une personne faisait vivre. Et, et l'essence et les tracts et les quelques apparts et les machins, on couchait chez des sympathisants. Si, tout l'été quand même, c'est ça, on allait démarcher. On faisait beaucoup de porte-à-porte,
oui,
on avait des contacts.
On avait des contacts avec des ouvriers du PC.
Oui.
Qui était depuis longtemps d'ailleurs un peu en rupture avec le PC, qui trouvait devenant trop social-démocrate.
Oui.
Et donc on a trouvé ce réseau de contacts et on allait tous les 2-3 jours discuter avec eux de la situation politique, comment ça bougeait, etc.
Et nos tâches.
On commençait à faire un petit réseau.
Les sympathisants.
qui allait depuis donc des anciens résistants, des...
Enfin, on avait surtout deux...
Réalistes durs.
C'est Tadoué, tout ça.
Non.
Arras. Ouais. Voilà, c'est Arras, finalement, qu'on s'est... Alors, Arras, Anne et moi, donc, nous sommes... nous avons décidé de rester et nous avons loué un appart.
D'accord.
Et là, nous avons commencé à faire de l'agitation en septembre, octobre, avec des lycéens pour avoir une petite force d'appui. Alors donc, on a trouvé un petit groupe de lycéens à Nard, du coin, qui avait fait mai 68 et qui avait envie de continuer. Et
qu'on
donc, a recruté. On a fait la première cellule de l'UJCML, enfin de la gauche prolétarienne à l'époque, puisque c'était devenu la gauche prolétarienne.
Oui.
À Arras. Avec donc pour soutenir ce dirigeant-là qui était établi dans l'usine.
Oui.
Et pour garder les contacts avec ses ouvriers. Voilà. Donc on a commencé notre travail là.
D'accord. Et la gauche prolétarienne s'est organisée à partir de Paris. Vous avez pris contact avec elle. Comment ça s'est passé?
Alors ce qui s'est passé, c'est que ce dirigeant-là en question était en plein dans les discussions, justement, de savoir la scission qui a
été. Avec Benny Lévy, avec.
Dans l'UJCML, entre ceux qui sont restés, qui sont passés au PCMLF après, et puis ceux qui ont fondé la gauche prolétarienne.
Oui.
Donc lui était en plein dans ces discussions-là tout le temps. Moi j'y suis allé une fois ou deux à des réunions, etc. En fait, on n'y comprenait pas grand-chose. Ça nous paraissait évident qu'il fallait rester donc, oui. Dans la gauche prolétarienne, puisque les autres, il y avait un certain repli hein, des gens qui n'ont pas fait ce chemin-là.
Oui. Qu'on appelait les liquidos.
C'est pour ça qu'on les appelait les liquidateurs.
Oui.
C'est parce qu'ils disaient, attendez, là, arrêtons.
Construisons un parti.
On s'en va dans le mur. Il faut construire un parti, réfléchir. Le centralisme démocratique, ça réclame aussi qu'on ait une analyse de classe de la situation française, oui. Etc. Donc, un discours beaucoup plus raisonnable du point de vue communiste
oui.
Que nous, qui étions, on nous a appelés, pas pour rien, les Maus Pontex, hein, qui étions,
oui.
Arrêtons de nous
faire. Appliquons la ligne des masses, et allons rencontrer les ouvriers, ceux qui ont raison, ceux qui vont.
C'était qui les liquidos? C'était des anciens. UJCML
qui, oui. Voilà. qui ont fondé ce PCMLF
oui,
et qui ont donc arrêté de vouloir aller faire de la gîte propre dans les
usines. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils étaient aussi établis quand on pense à oui. Laurent Marty, etc.
Oui, c'était quand même une très grande différence de,
oui.
De conception de ce qu'on devait faire hein, dans l'immédiat.
D'accord.
En gros, c'est très clair, mais c'est aussi parce qu'on était avec ce dirigeant-là et qu'on était dans cette ambiance-là. Pour nous, c'était très clair que si on voulait continuer la révolution, il fallait rester là. Si on commençait à rentrer à Paris...
La structure était assez décentralisée.
Ça n'a jamais été un parti, hein, donc ça n'a jamais oui. été une organisation où il y avait des cartes ou des membres ou des machins comme oui. ça. Ça a toujours été un truc un peu flou.
Oui.
Mais il y avait une organisation centrale très forte.
Oui.
Il y avait une dizaine de dirigeants qui étaient là, qui se réunissaient très très régulièrement, qui formaient le bureau politique, ou je ne sais plus comment on l'appelait, le comité central, non, je ne sais plus comment on l'appelait ça. Enfin, une espèce de comité exécutif
oui.
National. Et dans chaque région, il y avait le représentant de ce comité national qui avait fait autour de lui un petit groupe aussi de dirigeants hein, de la région.
D'accord.
Donc, par exemple, moi, j'étais après le responsable sur mon coin, et puis j'allais aux réunions à Lille, où on recevait la parole qui nous arrivait de Paris.
D'accord.
Il y avait des grandes discussions et tout ça.
Et ça a continué pendant combien de temps?
Eh bien, ça a continué donc toute l'année 68-69, c'est ça?
Oui, 69 avec
le nom. Septembre 68 jusqu'à juin 69.
Là, c'était la grande, en fait, ça s'est transformé en grande révolte anti-autoritaire avec les lycéens.
Oui, mais nous, on était dans le Nord.
Mais nous, on était dans le Nord, oui. Ensuite, on s'est établi.
Voilà. Après, ça a été. On a commencé à travailler en usine.
Oui, où ça?
Alors, d'abord à Arras, dans une usine. Moi, j'ai travaillé dans une usine de. Une filature aussi.
Oui.
Ça n'a pas duré très longtemps. Un mois ou deux. Parce qu'ensuite, on nous a envoyé à Cambrai. Donc, qui était un autre coin. Donc là, nous, on était ensemble déjà.
Donc ça, c'était des décisions prises, effectivement, d'une façon tout à fait centrale. On nous envoyait comme des pions, ici ou là.
parce qu'il fallait, parce qu'il y avait un ouvrier en fait.
Un ouvrier, anciennement de Citroën.
Comme moi, je voulais, on voulait s'établir tous les deux. L'idéal, c'était qu'on aille à Cambrai pour être établi avec lui. Et donc,
c'est la reprise en fait d'endroits où il y avait eu des choses importantes en 68, des grosses grèves en 68, et où des contacts avaient été pris, mais souvent de façon très. Et là, il y avait un contact, et l'idée étant de partir de ce contact pour créer une cellule à Cambrai, comme il y en avait, en pensant qu'à Arras, les autres pouvaient prendre le relais. Puisque en fait, Bernard était quand même.
Donc on a été tous les deux à Cambrai,
moi je travaillais dans une. Moi je travaillais dans une chocolaterie. Avec des filles qui étaient typiquement des jeunes femmes avant mariage, qui travaillaient, c'était une usine qui travaillait de façon saisonnière, ça s'arrêtait quasiment pendant l'hiver, il fallait faire des chocolats pour Noël, c'était l'usine Lanvin, ça n'existe plus, ça a disparu, c'est retourné il n'y a pas très longtemps, quand ma fille a été nommée prof de philo au lycée de Cambrai, tout à fait par hasard. C'est rigolo. Et voilà, ça c'était une expérience absolument fondatrice quand même si ça n'a pas duré très longtemps. D'abord parce qu'on. C'était des filles qui venaient de toutes sortes de coins, de villages vraiment, et qui parlaient des patois, mais incompréhensibles. Et qui prenaient le bus le matin.
Ils n'avaient pas envie de faire la révolution.
Alors qu'ils n'avaient pas vraiment envie de faire la révolution, mais. Oui, non, enfin, non. Mais avec qui, et qui n'avait pas du tout envie, non, c'est clair. Mais enfin, avec qui, enfin, il y avait quand même aussi des révoltés, beaucoup plus. Je me souviens très très bien d'une petite brune, là, qui était drôle, non, une petite blonde, je m'en souviens comme c'était hier, je pourrais presque la reconnaître sur la photo, qui était très drôle, qui faisait rire tout le monde. Moi, j'étais hyper frustrée, parce que je comprenais presque rien de ce qu'elle disait, mais elle était vraiment très très marrante. Et en fait, la façon dont. Enfin, nous, notre rôle, c'était quand même d'attiser, évidemment, les conflits, elles étaient quand même, les conditions de travail, on les connaît, hein, mais c'était la pointeuse, speed toute la journée, on était à la chaîne, il n'était pas question d'aller faire pipi, il n'était pas question de, il y avait ces fameuses contre-dames, donc toute espèce d'autorité, et puis la ruée à la sortie, donc l'idée c'était effectivement de commencer à s'appuyer, toujours d'appliquer la ligne de masse, donc de s'appuyer dans la mesure où on pouvait comprendre sur... la moindre mécontentement qui pouvait prendre de l'ampleur. Donc quand même, enfin moi, je m'étais liée avec une fille qui ne devait pas être du coin, donc qui parlait un français à peu près normal, qui le jour où j'ai quand même confié que j'étais étudiante, parce que avec ma détestation du mensonge, je trouvais que cette situation était un peu intolérable, qui n'a jamais voulu me croire. Mais si tu étais étudiante, si tu avais le bac, tu ne serais pas là, qu'est-ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Bon. Mais avec qui on a quand même fait un tract qui a été diffusé. Alors ma grande satisfaction quand je me repense à ces mois d'usine, c'est de voir ce tract diffusé par les copains et quand même lu et applaudi des deux mains. Enfin, c'est-à-dire qu'effectivement...
les petits chefs.
Oui, c'était ça. les cadences infernales. C'était le grand mot d'ordre de l'époque. C'était les cadences et les petits chefs. Et c'était un peu partout, comme à la lumière, comme partout. Et on arrivait quand même à fomenter des vrais. Alors, je pense à José, là, dans son. À Roubaix, je ne sais plus quelle était son usine, mais soit des vraies grèves, soit des vrais combats, des bris de cadences, etc.
Oui.
Et moi, j'étais enfin heureuse parce que, enfin, j'étais pas très heureuse. C'était quand même c'était une vie quand même très, 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 très dure. Mais en tout cas, j'avais l'impression d'être au cœur de là où il fallait.
Et moi, donc, de mon côté, donc, j'ai travaillé d'abord dans une sucrerie parce que il fallait aussi se faire avoir une petite histoire ouvrière. Hein. On pouvait pas aller se faire embaucher chez. Moi, je voulais aller chez Citroën Messiaen, donc qui était l'usine du coin, qui était importante. Et donc, il fallait passer par des étapes intermédiaires pour avoir un certificat de travail à montrer aux gens chez qui on voulait s'embaucher.
D'accord.
Et donc, j'ai travaillé dans cette sucrerie pendant un certain temps. Puis, je me suis embauché à Citroën Messiaen. Et là, j'avais trouvé vraiment le boulot idéal.
Oui.
Puisque j'étais magasinier, hein, aide-magasinier, c'est-à-dire que j'alimentais les chaînes. Donc, stratégiquement, c'était formidable. Hein. C'était l'endroit où je pouvais parler à tout le monde dans les chaînes, etc. Mais malheureusement, je ne suis pas resté longtemps. Parce qu'au bout d'une semaine, 10 jours que j'étais là, on est parti se marier à Paris. Un week-end, j'avais eu mon week-end.
On est parti se marier chez Martine. Voilà, ça faisait partie
on est à quel moment là,
en septembre 69.
1769, d'accord.
Et donc, je reviens de mon mariage et...
Pas de voyage de noces.
Non, non.
Non, mais alors le mariage,
j'avais eu trois jours pour me marier.
Non, mais le mariage, c'était pour des raisons politiques aussi.
Oui, bien sûr.
Et donc, enfin, je reviens, et là, je me fais refouler à l'entrée de l'usine.
Oui.
Vous êtes licencié.
Ah oui, d'accord.
Et donc là, là, quand même, ça a été mon plus beau titre de gloire ouvrier. C'est que donc, j'ai gueulé, etc. Et les ouvriers se sont arrêtés et les ouvriers se sont mis en grève.
Ah, formidable.
Pour défendre moi contre mon licenciement. Et donc il y a eu une grève qui a duré une demi-journée.
Ouais.
Et au bout de la demi-journée, les syndicalistes qui sont allés négocier avec le patron sont revenus dans le réfectoire, là où étaient tous les ouvriers. Moi j'étais toujours dehors. Et on dit aux ouvriers, on a gagné tout. Ils avaient gagné effectivement toutes leurs revendications qu'ils avaient depuis plusieurs années.
Ah oui.
Et les types ont dit, ah, et Victory, il est réintégré. Et là, les types ont dit, non, 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 Victory, non, c'est une autre affaire. C'est beaucoup plus compliqué que vous ne croyez. Ça va passer au prud'homme, etc. On reste mobilisé là-dessus. Mais, méfiance et tout ça. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que le patron avait dit aux syndicalistes que les flics étaient venus dire que j'étais maoïste. Et donc les syndicalistes étaient totalement d'accord sur le fait que je sois licencié en tant que maoïste. Bon, pour eux, il n'y avait pas de souci. J'étais un agitateur étranger, il fallait bien me virer. Donc ils ont réussi à arrêter la grève en obtenant satisfaction sur des tas d'autres choses. Voilà.
Parce que c'était des syndicalistes CGT.
Voilà, qui étaient CGT essentiellement.
Ouais.
C'était
le
Parti communiste qui était à l'œuvre. Et donc voilà, donc j'ai été. Mon heure de gloire n'a pas duré très longtemps.
Il y a une petite chose que je ne comprends pas, c'est que comment vous, les Parisiens, avec la formation que vous avez, comment vous avez fait pour vous faire passer comme ouvrier du Nord
Bah, c'est assez simple, hein, en fait.
Vous n'avez pas repéré tout de suite.
Bah,
on avait des histoires.
C'est assez facile, hein, on arrive dans la sucrerie, par exemple. Il y a ce qu'on appelle la campagne de sucre, de betterave, etc.
Oui.
Et là, pendant l'été, c'est avant la campagne, c'est des entreprises de bâtiments, en fait, de sous-traitants qui viennent remettre tous les tôles, etc. Enfin, tout réaménager l'usine pour la campagne.
D'accord.
Donc là, il y a une série de petites boîtes qui cherchent de la main-d'œuvre.
D'accord.
Ils cherchent de la main-d'œuvre pour 2 mois.
D'accord.
Donc vous arrivez là et vous dites, je cherche du boulot, ben viens. Besoin de rien savoir, hein. Simplement, faut pas avoir la trouille quand on monte.
Non, mais les histoires qu'on racontait, c'était effectivement.
C'est tout.
D'abord, c'était quand même une période de super plein emploi. Enfin,
oui,
franchement, il n'était pas.
Oui,
et Bernard, il racontait qu'il venait d'Algérie, donc qu'il son père avait un commerce. Moi, je racontais que j'avais dû élever mes frères et sœurs, enfin des trucs comme ça.
Voilà.
Quelquefois, on passait des tests. Alors, quand on passait des tests, le plus dur, c'était de. Il fallait quand même les réussir assez pour être pris, mais pas trop
pour
pas
manquer. Vous n'avez pas le mensonge.
Quand il est légitimé, j'aime pas le mensonge. Quand c'est fait contre l'ennemi, effectivement, je n'étais pas très très
bonne. Mentir à l'ennemi, c'est la vie.
Mentir à l'ennemi, c'est comme.
Enfin, voilà, donc là, ça s'est terminé très vite, cette. Ce boulot, et puis après, qu'est-ce qui s'est passé après, j'ai été appelé.
Après, t'as été quand même assez vite en prison. Hein.
Non, il y a quand même eu. Non, je me suis retrouvé à.
Ouais, Thompson.
À nouveau à la sucrerie, mais là pendant la campagne.
Ouais.
Et là, j'ai fait un boulot de pontonnier où j'ai eu les trouilles de ma vie. Là, hein.
Qu'est-ce que c'est, le pontonnier?
Pontonnier, c'est, vous savez, les grands ponts d'usine qui se baladent avec des grues dessus.
Oui.
Et moi, j'étais au-dessus de la grue, donc j'avais une petite cabine qui se baladait dans un mouvement oscillatoire avec un accélérateur dans un sens, dans l'autre sens, se promenait comme ça sur un grand pont. Et, puis en bas, il y avait des ouvriers qui mettaient des sacs de sucre qui allaient vers les camions. Enfin, non.
D'accord.
Et ce boulot-là était un boulot très dangereux,
oui.
Vraiment. Et c'était un boulot qu'on appelait les 4-8, c'est-à-dire qu'on faisait 8 heures d'affilée pendant une semaine.
Ouais.
Ensuite, on avait 8 heures de repos.
Ouais.
Et on reprenait, alors si on avait commencé le matin, on reprenait de nuit.
Ah.
Pendant 7 jours, de nuit, on faisait 8 heures. puis après on avait 8 heures de repos et on reprenait d'après-midi, etc. Donc c'était un boulot absolument exténuant, surtout quand on faisait la nuit. Et une nuit, je m'endormais hein, sur mon truc. Et il fallait, j'ai vraiment failli passer. Et donc j'étais pas très très content. Et heureusement, la direction du CML de la gauche prolétarienne a décidé qu'il fallait que j'arrête de travailler parce qu'il fallait prendre en main la direction Je suis devenu cadre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé
Après, tu as repris, mais tu voulais absolument toujours t'établir. C'était la grande lutte, parce que Bernard voulait travailler en usine. Pardon. Que Bernard voulait travailler en usine et la direction voulait que. Voulait pas. Ouais. Donc après, tu as retravaillé à Thomson, tu as travaillé dans une brasserie, puis c'était toujours des expériences assez courtes finalement. Entre...
Ah oui, non, mais attends, oui, ça c'est ça. Après Cambrai, j'étais cadre. Et là c'était assez infernal, hein. on distribuait des tracts partout, on faisait beaucoup.
Il y a eu énormément d'éducation, c'était la mine.
C'est là qu'il y a eu les mines.
Oui.
Donc il y a eu un accident à Fourquières-les-Lances qui a tué
16 mineurs. 16 ou 17 c'est l'avant-dernier gros accident dans les mines.
Et donc là.
Il y a une grosse campagne de. Ouais. On s'est tous mobilisés.
Oui.
On est venu de partout, Lille, Douai, Arras, etc., alors que ce n'était pas les mines.
Et... Pardon, la mine, c'était quel nom
Fouquières-les-Lances. Maintenant, ça s'appelle Hénin-Liétard.
Hénin-Beaumont.
Et maintenant, ça s'appelle Hénin-Beaumont. Ouais. C'était un puits de mine dans lequel il y avait un coup de grisou.
Donc, à Fouquières-les-Lances, il y a eu ce coup de grisou. Et donc là, on a fait une grande campagne sur le thème...
C'est pas un accident, c'est pas
la guerre tue les mineurs de sang-froid. Enfin bon, effectivement, c'était les accidents, ce qu'on appelle les accidents du travail de l'époque. C'était quand même beaucoup de négligence. Hein.
Oui, bien sûr.
Et donc là, on avait fait une mobilisation énorme qui a très bien marché, mais qui a été réprimée sauvagement.
Et en 69-70, cet accident, il date de. Ah oui, c'est du temps.
Donc ça a été réprimé sauvagement par les flics qui nous avaient embarqués, par exemple, le jour de l'enterrement.
On a été une cinquantaine.
Une cinquantaine. D'ailleurs, on avait fait une espèce de révolte dans le commissariat. On s'était battu avec les flics dans le commissariat. Enfin, c'était assez violent et fort. Et quand on a vu qu'on n'arrivait pas à faire bouger les mineurs sur notre mot d'ordre, on a décidé de faire une action violente.
Oui.
Et donc on a lancé des cocktails Molotov dans les bureaux des houillères à Hénin-Liétard en question.
C'est là qu'on a d'ailleurs rencontré Olivier Rollin
qui était venu nous organiser, puisque c'est partie de la nouvelle résistance populaire.
D'accord.
Et donc on a fait ça, et puis voilà, puis ça continue, puis ça n'a pas arrêté. Après on faisait des actions de plus en plus violentes aussi dans les boîtes. Donc moi, une fois, je me suis retrouvé à Roubaix. Donc comme j'étais un des chefs là du Nord, l'idée c'était qu'il fallait toujours être au premier.
Oui.
Première ligne.
Première ligne.
Et c'était des actions d'éclat, pas des actions violentes. Hein. On n'était pas en Italie quand même. C'était des actions d'éclat symboliques, très symboliques, comme de balancer des boîtes de peinture sur les contre-dames, puisqu'on était en pleine année.
Non.
Cocktail Molotov,
c'est le seul qu'on ait fait. Hein. C'est, d'ailleurs, il n'a pas brûlé grand-chose. Il aurait dû brûler toutes les
mains. Moi, je m'en fiche, mais il y a tout un discours des anciens maoïstes sur la non-violence des maoïstes.
Pas la non-violence. Sur le fait qu'on n'a jamais
pris le risque de
blesser gravement quelqu'un.
D'accord.
Par exemple, pour ce truc des houillères, c'est vrai que c'était une action, un incendie volontaire. On peut tuer des gens parce que...
Ouais.
On est allé en repérage, s'assurer qu'il n'y avait personne, aucun, même pas un clochard, etc., qui pouvait être dans les bureaux des houillères. C'est-à-dire qu'on a pris beaucoup de risques pour être sûr que l'incendie qu'on aurait aimé être plus spectaculaire, il a juste brûlé un petit bout de parquet. Enfin, c'était à deux doigts de brûler le rideau à côté qui aurait tout déclenché. Mais bon,
d'être sûr
on espérait
faire
un grand
pas,
incendie des houillères, que les houillères brûlent. Mais, mais ce bureau-là, on savait qu'il était vide la nuit, etc.
Ouais, d'accord.
Bon, voilà. L'autre action pour laquelle j'étais en prison aussi, ça a été donc un pot de peinture.
Oui.
Et une contre-dame. Vous savez ce que c'est les contre-dames? C'est la même chose que les contre-maîtres.
Oui,
on les appelait les contre-dames quand c'était des femmes. Dans une usine d'ailleurs de textile, la Lainière de Roubaix.
Oui.
C'était des cadences infernales et c'était des filles qui étaient très facho, enfin vraiment un peu sadique, hein, qui empêchait les ouvrières d'aller pisser quand elles avaient envie, etc. Oui. Enfin bon, il y en avait une qui était particulièrement odieuse.
Oui.
On avait quelqu'un qui travaillait à l'intérieur, donc on avait distribué les tracts à l'intérieur pour dénoncer ça. Et comme action d'éclat, on a balancé un pot de peinture verte.
Jaune.
Tiens, ah bon.
Une jaune.
Sur sa tête, devant les ouvriers qui sortaient. Hein. Donc on arrivait en commando, on a balancé ce pot de peinture pour dire ça suffit, tu t'en. Avec un
d'accord, c'est de la violence, mon
frère. T'as encore fait chier telle et telle ouvrière la semaine dernière, c'est impossible. Quoi. Que ça continue. Voilà, donc, et puis là c'est devenu, pour moi, c'était devenu effectivement de plus en plus rude.
Vous êtes allé en prison, vous dites ?
Voilà, alors donc là, moi, à un moment donné, à ce moment-là, j'étais redevenu assistant de fac.
Oui.
J'étais redevenu assistant de fac ?
Bah oui.
Mais oui, j'étais devenu assistant de fac.
Oui, parce qu'à un moment donné, c'est pareil.
Quand je suis devenu cadre, là. Donc,
oui.
Voilà.
Assistant de fac, c'est quand même des postes super populaires de prof de fac, hein, par ailleurs.
J'en avais tellement marre.
Quand on voit maintenant comment.
Du rythme de militant, etc., que j'ai demandé à aller en usine à nouveau.
D'accord.
En me disant, ça ne peut plus durer. Et puis c'était très dur avec Anne, parce qu'Anne était restée à Cambrai, où elle devait organiser, elle toute seule, Cambrai.
Oui.
Et on commençait à avoir une vie qui était une vie très, très dure sur le plan personnel, on peut le dire. Tu n'allais pas très bien.
Eh bien, dis donc, c'est bien la première fois que je t'entends dire ça, mon chéri. D'habitude, c'est plutôt moi.
Non, mais c'est la grande question, c'est comment vous avez organisé votre vie
personnelle.
De militant et vie personnelle.
Ben à l'époque, il n'y avait pas de différence. Enfin, si, non, mais c'est vrai que c'est une question extrêmement intéressante. On avait ce personnage. Enfin, malheureusement, on s'est beaucoup éloigné de lui il n'y a pas si longtemps. Jean Chiavaud, vous en entendez peut-être encore parler. Ouais. C'est quelqu'un qui régnait un peu sur le Nord, hein, qui avait une force de conviction très grande, avec des idées, à la fois les idées de l'AGP, mais aussi des idées extrêmement personnelles, et en particulier sur la vie privée, et à la chinoise, c'est-à-dire qu'effectivement, il défendait l'idée qu'il y avait des amours bourgeois et des amours prolétariens, par exemple.
Ah,
donc voilà, les amours prolétariens, c'était les amours à la chinoise, où on était prêt à séparer, à tout faire pour le parti, etc. Et les amours bourgeois, voilà, c'était je sais pas quoi, parce qu'en fait, c'était quand même aussi très ses projections personnelles à lui. Mais c'est lui qui nous a mariés, entre guillemets, parce que c'est lui qui, le jour où il a décidé que... Enfin, il a pas décidé, il a construit toute une thèse sur le fait qu'effectivement, le fait de vivre sans être marié à l'époque, en 69, canalisait un peu le regard des ouvriers, que du coup, le détournait de la vraie question, qui était la question de la guerre des classes, pour le détourner vers des questions qui n'étaient pas encore à l'ordre du jour, sur... qui sont venus un peu
la
plus tard,
sexuelle, hein,
la liberté sexuelle, le féminisme, etc. Et qui donc a convaincu Bernard en une nuit de la justesse de ses positions, parce que ça se passait souvent comme ça, nuit au terme de laquelle il m'a dit, bah, finalement, alors, qu'est-ce que t'en penses, on se marie, voilà. C'était très romantique, mais c'est comme ça qu'on s'est mariés. Enfin, ceci dit, 38 ans après, on est toujours mariés, donc voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Mais enfin, c'était
donc,
pas des années...
Donc, marié civilement, mais c'est lui qui l'a provoqué.
Voilà, c'est ça, c'est lui qui a...
Et comme voilà, c'est ça.
Comme prêtre mariste.
C'est ça, ça a un côté... Le Nord était connu, hein, dans la gauche prolétarienne, il y avait quand même des régions qui étaient beaucoup
des
plus
spécificités,
libertaires,
oui.
Et puis des régions qui étaient très...
ascétiques.
Bonne comme le puritaine comme le PC, hein, le PC aussi avait ce côté-là. Et donc nous, on avait repris ce côté du PC, on était très puritains, bon. Et en même temps, tout ce qui était, je sais pas quoi, même aller au cinéma, lire des livres, etc.
Toute notre vie était totalement.
Si on avait un peu de temps, on disait Mao Tse-Tung, hein, quand même. Bon, d'accord. Et puis,
moi qui étais donc en études de lettres et qui ai lu, quand j'avais 14-15 ans, je lisais à peu près 3-4 livres par semaine, j'ai arrêté de lire pendant 10 ans, quoi.
Ah bon?
Ah oui, complètement.
Et on méditait 24 heures sur 24.
Il n'était pas question de s'acheter un livre, il n'était pas question, toute notre vie était régie.
Pour discuter avec les gens, on en est distribué un tract.
Ou si on faisait rien, moi j'ai passé à Cambrai, j'ai passé des heures sur mon lit à déprimer aussi.
Voilà.
Non, moi j'ai vécu effectivement des années très, très sombres en même temps, hein, très, très dures, très... mais bon, voilà, c'était l'esprit de sacrifice.
Hein. Enfin, c'était, les choses se sont...
Ce qui régissait, mais en...
Pour le peuple, quoi.
Oui, et lui, il avait ça, enfin voilà, c'était la chinoise, l'esprit de sacrifice, c'est ce qu'on nous répétait, c'est un mot qui revenait dans notre vocabulaire constamment, 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 constamment. Et donc notre vie personnelle était absolument pas dissociée de rien d'autre. Et alors, à un moment donné, donc Bernard était à Lille, moi j'étais restée à Cambrai, où on me demandait, alors que j'avais pas de permis, que j'étais en plus... d'une timidité totalement extrême, c'était impossible quoi. Il fallait que je, il y avait ce vieil, enfin cet ouvrier relativement vieux avec qui moi, comme jeune fille, je pouvais pas franchement nouer quoi que ce soit. Donc j'ai pas fait grand chose à Cambrai. Et à un moment donné, je me suis un peu révoltée. Enfin, puis en plus, c'était les conditions de l'époque, évidemment, hein, non seulement pas de portable, mais pas de téléphone. Donc je passais ma vie à Bernard était sur les routes, il revenait tous les trois jours. Je vivais dans une terreur totale et continue.
Je m'endormais sur la route.
C'était le Nord, hein, c'était des routes verglacées, c'était des deux chevaux, des voitures qui marchaient pas. C'était bon. Et à un moment donné, je me suis révoltée quand même. Je manifestais que ça allait plus. Et il y a eu une espèce de un peu comme les séances autocritiques. Hein. Ouais. Et là, j'ai été convoquée chez ce Jean Chiavaud, qui par la suite est devenu un grand ami, c'était le parrain de ma fille, et qui voulait m'envoyer comme ce qu'on appelle fille des mines. Fille des mines, c'était des filles qui vivaient dans les mines, qui partaient à 3h du matin, travaillaient dans les usines textiles de Roubaix, donc en quart, elles mettaient 2h, hein, et retournaient. Et c'était pas tant pour militer ou pour faire de l'agitation, c'était vraiment comme... pour me punir. C'était vraiment de la punition. Il faut en passer par, avec tout ce discours, et je m'en souviens là aussi comme c'était hier.
C'est ce qu'on appelle la rééducation.
Voilà, c'était de la rééducation.
Comme en Chine, hein, les étudiants et tout qui se conduisaient mal, on les rééduquait à la campagne.
Mon idéologie n'était pas bonne, donc il fallait que j'en passe par des conditions de vie d'où je les sortir purifiées et prêtes à l'emploi.
Et moi aussi d'ailleurs, donc c'est une des raisons pour lesquelles. Moi d'ailleurs, moi j'avais même envie, hein, j'en avais marre de mener cette vie de fou là. Et donc j'ai demandé aussi à m'établir à nouveau. Et donc là j'ai travaillé à la Thompson, quand même des chaque fois j'avais trouvé quand même les endroits impeccables. La Thompson, c'était parfait à nouveau. J'étais
au cœur de la prochaine,
etc. Un endroit absolument stratégique, c'était une boîte
à
Lille.
L'Équin, c'est à côté de Lille.
Oui.
Ça fabriquait des appareils électroménagers. Donc,
Et
vraiment, j'étais. C'était parfait. Et un jour, donc, j'arrive à mon boulot et le contremaître me dit. T'es convoqué au bureau là en haut, vas-y et tout. Alors je vais dans le bureau et il y avait deux flics derrière la porte qui me mettent mes menottes et tchac, m'envoie en taule. Et donc j'ai été mis en prison.
C'est à quelle époque ça?
En mars, février. Oui, non, février-mars. Non, t'étais sorti le 6 mai. Moi j'étais enceinte, je venais d'apprendre que j'étais enceinte.
Ah bon Attendez, quelle année?
70, début 70.
Ouais, mars-avril 70. Donc je me suis mis en prison pour l'histoire du pot de peinture.
Ah ouais, c'est marrant ce que tu dis, je me suis mis en prison.
Vous êtes resté combien de temps?
Alors je reste un mois et demi où il y a le jugement qui est fait, le procès donc.
Ouais.
Et là je prends 3 mois de prison avec sursis.
Il ressort 15 jours et au bout de 15 jours...
Je ressors 15 jours, on décide d'aller s'établir dans un autre coin.
Le bassin de la Sambre.
Le bassin de la Sambre.
Enfin on décide, on nous envoie dans un autre coin. Ouais.
Et là, 15 jours après, tous les deux, on est arrêtés, on était enceinte donc déjà de
4 mois et demi.
Au retour de ce bassin de la Sambre, on allait prospecter pour essayer de trouver un endroit où loger, etc. Dans notre maison de Roubaix, on s'arrête. Et là, les flics, armes au poing, etc., nous arrêtent.
Pour l'histoire, en fait, des mines.
Pour l'histoire des Navietas, là, donc de...
Ils avaient ratissé là, ils ont déjà arrêté une douzaine de militants.
Et là, on reste, on est arrêté, moi je reste en prison 7 mois et demi, jusqu'au jugement, tandis que Anne ne reste en prison que...
Moi, je suis resté un mois, mais j'avais des alibis en béton qui n'ont pas empêché la cour de...
Ouais, la cour de... Vous étiez enceinte.
Non, non, non,
parce que j'étais enceinte.
C'est qu'elle était à Paris le jour de la...
Ah ouais, d'accord.
Le jour où on a jeté les cocktails Molotov.
J'étais pas.
Elle y était pas.
Donc, alors, j'étais
et
pas,
les
mais j'étais...
qui nous avaient vendu, puisqu'on a été donné par deux...
Deux types de lumpen prolétariat avec qui on adorait sa coquiner, faut dire. On allait vraiment les chercher.
Et eux avaient raconté que Anne était à la réunion qui avait préparé...
Enfin, il y a eu des confusions de personnes, etc.
Et ils se sont complètement plantés. Anne était à Paris ce jour-là. Donc ça, donc, ça a permis de la libérer tout de suite. Enfin, presque tout de suite. Un mois, ça a duré quand même. Tandis que nous, les autres, donc Jean Chiavo le premier, il était là, hein, Jean Chiavo, etc. Enfin, à peu près tous les dirigeants du Nord, on avait tous participé à l'opération.
Oui.
On s'est retrouvés donc en prison pendant 7 mois et demi et jugés par la Cour de sûreté de l'État.
À Paris.
À Paris. Jean-Paul Sartre et d'autres ont fait un tribunal populaire de Lens,
oui,
qui était destiné à condamner les houillères,
oui,
et qui était en écho à notre procès. Donc,
c'était juste avant.
Oui. L'idée, c'était quand même de soutenir des camarades qui avaient...
Oui.
Et nous, on a été
acquittés. Et surtout de condamner les houillères.
Après la Cour de sûreté d'État, donc on a été acquittés.
Après 4 jours de procès.
Après 4 jours de procès.
D'un procès assez fabuleux. Parce qu'en fait, c'était...
Ouais,
décembre 70. Voilà. 2 mois après mon accouchement. Donc, notre fille aînée, qui est sur le point d'accoucher, a vu son père pour la première fois à la prison de la santé.
Oui, d'accord.
Et donc là, on revient dans le Nord. Enfin, oui, et
on
revient militer à l'endroit où justement on devait militer.
Mais vous êtes récidiviste.
Récidiviste, absolument.
Non, mais vous n'avez pas. Parce que vous avez dit que vous étiez assistant au fac.
Ouais.
Fac de Lille ou fac de.
Fac de Lille, oui.
Fac de Lille. Et vous avez un enfant, donc il ne fallait pas devenir un peu sérieux, non?
Non.
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Non, non, c'était pas du tout l'esprit qui nous animait. On avait eu un enfant. Ça, c'est vraiment compliqué.
Oui,
mais...
C'était notre vie. Hein.
On avait 20 et 22 ans. Hein. On avait 20 et 22 ans. On était dedans. Moi, je me voyais assez bien vivre autrement, faut pas exagérer. Mais.
On s'est posé. Le droit de vivre autrement.
Non, on se posait quand même. Enfin, moi, je te disais, si tu sais, je rentre à Paris, qu'est-ce que tu fais? Et le jour où tu m'as dit, ben, je viendrai avec toi. J'ai vécu ça comme la plus grande déclaration d'amour que j'avais jamais eue. Non, c'était très. On ne vivait pas du tout de la même façon, de toute façon, tous les deux, ça c'est clair. Mmh. Puis d'ailleurs, on venait pas ni du même milieu, on ne se ressemblait pas du tout. Mais en même temps, partir, c'était trahir. Enfin, il y avait un sentiment, c'était... on était quand même... Bon, on s'appelait Nouvelle Résistance Populaire, on est quand même des enfants, enfin, une génération issue, enfin, ou en tout cas le modèle de... La génération précédente, de la résistance, du sacrifice de notre vie, etc., était présent, était prégnant.
Oui.
Et même moi, qui effectivement, je ne m'y retrouvais plus du tout, en tant que femme, en tant que militante de base, en tant que, avec ce Jean Chiavo, enfin, ces dictates qui n'avaient aucun sens, je sentais qu'on était complètement à la masse, quoi. Je pense que ça n'avait aucun sens, cette vie personnelle, enfin bon. Mais en même temps, je me voyais en tout cas pas revenir dans mes anciennes traces.
Oui.
Et je n'enviais pas du tout, j'en avais peut-être un tout petit peu en même temps, mais je veux dire, mes camarades qui avaient continué leurs études, ma mère qui m'écrivait, une telle est entrée à telle école, etc. Moi j'étais en plein dans autre chose. Et,
dans la vraie vie.
Et oui, dans quelque chose qui était plus de la vraie vie, qui était aussi... Alors c'est vrai qu'en Brest, c'était une parenthèse... Horrible, parce qu'en même temps, il n'y avait pas ça. J'étais coupée de tout, tout, tout. J'étais dans cet appartement. Mais après, quand on a été dans le bassin de la Sambre, voilà. C'était très, très dur.
Oui.
On se retrouvait dans un endroit qui était comme vous Zola.
Vous étiez ensemble.
Pardon ?
Vous étiez ensemble.
Oui, à la sortie de prison.
Oui.
Donc, on retourne dans le bassin de la Sambre, l'endroit où on devait...
Là, on était ensemble.
Avant la prison.
C'est
Maubeuge, Aumont,
oui.
Aulnois.
En fait, on a d'abord habité dans un endroit qui s'appelle Berlaimont, et puis après à Aumont.
Ouais.
Donc Aumont, c'est une
donc
ville.
Donc là, on s'est vraiment installé avec notre enfant, etc.
On a même eu un espèce de HLM.
Moi, j'ai retrouvé mon poste d'assistant à la fac.
Grâce à un réseau de solidarité qui était énorme aussi. Hein, ça
ouais.
bougeait beaucoup dans les facs.
Ouais.
C'était pas retrouvé comme ça.
Et donc,
on a fait un deuxième enfant dans la foulée.
Oui. Attends, non, comment ça s'est passé?
Quoi? Qu'on ait fait un deuxième enfant dans la foulée, tu te souviens pas?
Non, non, j'ai pas retrouvé.
J'ai donc,
pas
la fac,
la fac
non. Ben, si.
Mais non, c'est là que j'étais à la brasserie. J'ai travaillé.
Oui, tu as travaillé un peu à la brasserie, mais pas longtemps.
Ouais. J'ai travaillé à la brasserie, mais c'est jusqu'à la gare de la fin qu'on s'est retrouvé là. L'église de Mont, etc.
Ouais. Ça, c'est facile à cause de l'âge des enfants. À cause de Cécile, en 71, il y a eu un. En fait, ce qui s'est passé à Aumont, c'est que là vraiment, on se sentait lié aux masses. On a. Alors qu'on débarquait complètement, qu'on connaissait personne, qu'on découvrait effectivement, autant qu'à Roubaix, mais à Roubaix on a moins habité de nous, un prolétariat dans un état de misère, de conditions de vie, de conditions de tout. Et à la rentrée 71, moi j'avais pris un poste de prof dans un collège. Ouais. Et à trois, avec un autre prof qui était plutôt, lui, sur des positions, on va dire, libertaires, et puis une militante de chez nous, on a été virés, nous deux, pour motif, parce qu'on avait repéré qui on était. Et lui, à cause de son attitude, parce qu'il faisait cours sur la pelouse avec ses élèves, qu'il y avait déjà des espèces d'insinuations tout à fait infondées de. On disait pas pédophilie, mais enfin, de drague des élèves, etc. Ce n'était pas du tout vrai d'ailleurs. Et donc, on a entamé une grève de la faim.
D'accord.
Et dans l'église.
Et
là, ça a été un grand mouvement populaire, une espèce de mini mai 68 à Aumont, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu 1000 personnes sur la place, en train de venir nous parler, en train de parler de l'école, en train de se plaindre de l'école, en train de remettre des choses en question, en train de nous soutenir.
Ça a duré une semaine. Hein,
ça a duré plus
que
ça.
Monté, 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 et quart de CRS.
Plus que ça, plus que ça.
J'ai prévu une grande manif. Quart de CRS sont arrivés, mais vraiment comme une espèce d'armée d'occupation. Et finalement, on a transformé la manif en grand meeting. Et là, il y avait 1000 ouvriers, hein, mais vraiment,
oui.
Les ouvriers, dans la grande salle municipale d'Aumont, venus nous écouter.
1000, tu exagères. 1000, non. Non, non, pas 1000. Beaucoup. Ça, beaucoup, plusieurs centaines.
Regardez, c'est écrit dans...
Dans quoi?
Comment ça s'appelle?
Tiens, je vais vous montrer une photo.
Oui. Je vais juste vous montrer quelque chose. Les temps modernes.
Voilà.
C'est écrit, toute cette histoire.
Oui. Je sais pas.
Donc là, on avait. Je remets mon truc. Là, on avait vraiment l'impression, même si c'était dur, enfin moi en tout cas, d'être là pour quelque chose. Quoi.
C'était un peu votre apothéose en
fait. C'était un. Oui, un peu. En même temps. En même temps, c'était aussi un moment où on vivait tout à la fois, puisque j'étais enceinte, moi, pendant ce début de grève de la faim, j'étais enceinte de mon deuxième enfant, qui fait d'ailleurs que j'ai quand même arrêté cette grève de la faim très 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 vite. Mais les fachos avaient pénétré dans l'église, nous avaient écrasé la tente. Enfin, là, c'était aussi violent, pas de notre fait d'ailleurs, mais... Alors violent, il n'y avait pas mort d'homme non plus, hein. Encore que quelquefois on est passé, enfin probablement souvent, à deux doigts.
Regarde, le meeting. Or, que se passe-t-il au meeting? Près d'un millier de personnes y viennent, en majorité des ouvriers qui viennent souvent parler.
Mais c'est
de
toi qui as écrit l'article, alors forcément.
Non, là-dessus, tu ne peux pas dire. Moi aussi, le mensonge, je n'avais pas de mensonge. Non, non, je me souviens que c'était vraiment énorme.
Oui,
enfin bref, voilà, ça a été notre fait d'armes. Et qui fait qu'après on s'est installé.
Pas d'armes, justement, pas notre fait d'armes, justement.
On s'est installé donc dans cette base
de parole
pour plusieurs années.
Oui.
Et on a vécu donc toute la fin de la gauche prolétarienne.
Oui.
Sa dissolution avec l'IFE, etc. Là. Dans un groupe.
Il est venu en 73 à peu près.
Voilà. Oui. Donc toute cette période-là, on l'a vécu à Aumont où on avait un vrai réseau, une vraie cellule ouvrière,
oui.
On était implantés.
C'était au moment du Secours Rouge, c'était au moment aussi du début du féminisme.
On avait aussi des relations qui étaient devenues des relations extrêmement proches, agréables et respectueuses avec les gens du PSU.
Et les cathos de gauche.
Les cathos de gauche, justement. et donc en particulier un type qui est devenu député ensuite rocardien et qui
est typiquement un cadre de gauche, enfin formidable.
Comment, comment il s'appelle?
Umberto Batiste. Il habite à Ferrières-la-Petite, dans le Nord.
Et donc toutes nos actions militantes à partir de là, en gros, on les a faites avec eux. Et donc là, on avait quasiment une vie normale.
Oui.
De militants communistes, de traditionnels, si vous voulez, avec voilà, on faisait l'association de parents d'élèves, on faisait le machin, on faisait le comité de locataires, du HLM.
Tiens, voilà, ça c'est Bernard, dans les manifs de 68.
Ah oui, très bien. Voilà. Là, il a plus de cheveux.
Et voilà, la petite remarque qui tue.
Mais vous avez fait allusion au féminisme. Hein.
Alors en fait, pour moi, ça a été vraiment par le MLAC. C'est-à-dire que le MLAC, ça a dû...
Vous avez rencontré à quel moment?
Je ne sais pas, les enfants étaient quand même
c'était
déjà...
C'était avant la dissolution ou après?
C'était presque en même temps. En fait, ça nous a permis... en fait, comme vous savez sûrement, la GP donc, s'est autodissoute en novembre 73. Et tous ces mouvements dans lesquels on était, aussi bien le MLAC que le MTA, le mouvement des travailleurs arabes, etc., on fait que pour nous ça s'est passé un peu en douceur. Alors le MLAC c'était quoi? 60... Moi j'ai accouché en 72 d'Olivier, c'était plutôt 73, enfin... Non mais déjà j'avais pris contact avec le mouvement féministe pur et dur quand j'étais enceinte de Cécile, donc déjà le torchon brûle, ce qui est devenu le MLF, donc bon, j'avais été voir.
Ça me... Qui était vos contacts?
Difficile à dire. Je sais qu'il y avait un local rue des Canettes, et voilà, on se pointait rue des Canettes, et il y avait des réunions. Moi, j'étais très, très, j'ai été très, très mal regardée parce que j'étais enceinte, et que donc c'était. Donc, je me suis pas trop repointée là-bas parce que. Voilà. Mais disons que ça m'intéressait énormément, parce que moi, évidemment, enfin, j'avais adoré celle que j'exècre maintenant. Enfin, j'avais beaucoup, beaucoup lu Simone de Beauvoir, j'étais très, très, très pénétrée de ces idées-là. Ouais. Que j'avais complètement mis sous le boisseau au moment de la GP, où c'était plus l'essentiel. Donc là, à partir du moment où il y a eu en particulier les journaux, hein, le torchon brûle, où ça commençait, ça nous donnait quand même des aspirations qui, dans à la GP, il y avait. Ça discutait un petit peu, hein, c'était pas complètement le débat. Donc en fait, c'est surtout le MLAC, donc le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, qui s'est développé, je dirais, à partir de 72 à peu près, et qui a amené au fait qu'on pratique des avortements chez nous. Enfin, nous, on était assez peu, parce que le bassin de la Somme, c'était loin de Lille, c'était à 80 km de Lille, qui était un peu l'endroit où les choses se passaient.
Avec la méthode
Carman. Ceci dit, on s'est formé à cette méthode.
C'est quelle méthode ?
Méthode
d'aspiration,
méthode d'avortement par aspiration, c'est pas très peut-être pas
on peut faire chez soi.
Voilà,
en prenant quelques précautions et à condition que ça soit quand même des
vous êtes
moins de 3 mois.
Vous êtes d'ange, comme on disait dans le temps.
Voilà. Oui. Alors moi j'en ai.
Mais c'était très militant, hein. Ça,
bien sûr.
Toutes les filles du MLAC qui se réunissaient, les mecs gardaient les enfants. Il y avait tout un côté.
Il y avait évidemment en discussion pour savoir
des
si vraiment.
Ça voulait vraiment.
C'était pas du tout le féminisme bourgeois.
C'était pas non plus le féminisme radical au sens où il s'agissait pas de faire avorter les filles.
Contre elle, contre le regret.
Pour le plaisir, j'ose dire. Non. Il y avait des discussions extrêmement.
Non, mais c'était des mouvements. Le MLAC chez nous, il a été très féminin. Enfin, féminin au sens constitué de femmes. Mais par exemple, à Lille, c'était des hommes, c'était des médecins qui nous ont enseigné les méthodes. Ouais. C'était pas un mouvement fermé aux hommes, par exemple. Alors, ça, il y avait un peu des. Puis il y a eu l'émergence des groupes de femmes. Pour moi, ça a été extrêmement important, très 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 important. Donc, des groupes de femmes, comme il y en a eu un peu partout, où justement, enfin, on a pu. Je vous redonne du café froid, peut-être pas.
C'est vraiment un brassage de femmes de tous les milieux.
Non.
Non.
Non. On ne peut pas dire quand même, c'était essentiellement des. C'était essentiellement nous, les sympathisantes, des profs de fac, des instituts. Il y a pas eu énormément de. Les femmes de milieu ouvrier étaient. Oh non, elle n'a jamais été. Non, 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 non. Les femmes de milieu ouvrier étaient assez loin de ça quand même. Hein. Pas du tout. Non, non, Jacqueline, elle regardait.
Mais les avortements, c'était pour le compte des
Ah oui, alors ça, si, en revanche. Ah non, 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 oui, 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 oui. Oui, oui. Alors, comment elles avaient nos contacts, je ne sais pas, mais par exemple, on a avorté une fille de 16 ans, enfin, on a pratiqué l'avortement d'une fille de 16 ans, qui était une fille de forain, vous savez, de marchand forain, qui vivait dans une misère absolument noire, ça, c'était horrible, horrible. Et là, oui, alors. Je sais pas, enfin nous, dans notre région, alors on avait toujours le recours d'aller à l'hôpital aussi, on prenait rendez-vous avec le planning familial, là aussi c'est un peu comme dans le...
On avait beaucoup de contacts de toutes sortes, hein. Il y avait des petits commerçants aussi, on était devenu une force politique du coin, hein. une petite force politique du coin, mais quand même, on était des espèces de... Les gens nous connaissaient comme étant les militants Mao du coin...
Et on faisait, quand on faisait ça, moi je me souviens par exemple que, encore une fois, je disais que j'insiste sur le fait de cette timidité maladive, mais la première fois que j'ai vraiment pris la parole en public, enfin qui a été exacerbée par le militantisme de la JP, parce que on a dû vous le dire ou on vous le dira, c'était un mouvement éminemment macho et dirigé, une coupe parole masculine, des paroles très très autoritaires, très fortes, très, où les femmes se retrouvaient pas du tout. Et effectivement, moi je me souviens que ma première prise de parole publique, c'était à l'hôpital, à l'hôpital, donc avec le planning familial, pour demander donc effectivement la liberté de la contraception. Donc ça a été très important. Alors le MLAC et les groupes de femmes. Moi j'ai jamais été dans des mouvements féministes pur et dur, comme il s'en est constitué à Lille, un peu partout, mais celui d'Antoinette.
Vous avez parlé, c'était...
C'était à Maubeuge.
Oui.
On était, Lille et Maubeuge, c'est vraiment le bout du monde. Hein. C'est vraiment la frontière belge. C'est, non, mais vous dites oui, mais oui, franchement...
Mais on dit, c'est ce qu'on le dit couramment. Moi, j'ai vécu pas mal de temps à Lille, mais je suis jamais allé à Maubeuge.
Et encore maintenant, il y a des festivals de théâtre, il y a des cinémas, il y a ce festival incroyable. Là, mais à l'époque, il n'y avait pas un Cinoche, c'était la sidérurgie, c'était la mise, c'était Germinal, c'était Zola, mais complètement.
Oui, oui,
oui. Et donc...
Et vous n'avez pas eu des ennuis avec les autorités, parce que c'était toujours illégal, l'avortement...
C'était parfaitement illégal.
Oui, mais enfin, bon, c'était la période où justement ils avaient baissé les bras hein, sur le...
C'était quand même très peu de temps avant la loi.
Il y avait eu le manifeste des salopes, des 300 salopes, je ne sais plus combien.
Oui. 143, 147.
Ils avaient renoncé à les poursuivre. Donc ils savaient que tout ça existait, mais ils avaient décidé de ne pas les réprimer. Voilà, et puis donc progressivement, entre mouvement de femmes, mouvement de ceci, de cela, on est passé aux communautés, on a vécu en communauté pendant un an, donc après, donc liberté sexuelle, tout ça, on a vécu tout ça après le militantisme.
Ah, toujours au même endroit ?
Toujours au même endroit.
Dans les régions.
Avec
la classe moyenne, qui n'était pas à la GP. Qui étaient des militants, soit du PS d'ailleurs à l'époque, soit des sympathisants justement du MLAC, des gens avec qui on avait effectivement, qui étaient autour. Il y a eu, on passe sous silence plein de choses. Il y a eu une grève par exemple, on a occupé une grève pendant un mois avec Olivier dans son berceau qui avait 3 mois.
Quatre
mois, donc ça c'était en 72, une grève dure, qui a duré longtemps et on occupait jour et nuit. On avait le berceau du bébé au milieu, la femme, le cafetier, vous disait « Ah mais attendez, je vais vous le monter dans la chambre et tout. » Et donc, quand il y avait des choses comme ça, puis il y a eu plein d'autres choses, avec le secours rouge, il y avait chaque fait divers, entre guillemets, qui pouvait donner lieu à...
Les comités vérité et justice.
Ah oui.
Voilà, on était vraiment là-dedans.
C'était les militants en prison, tout ça, ça.
Non, c'était...
Non, ça aussi, moi, j'ai été...
Remise en cause de la justice bourgeoise.
Oui.
Ben, il y a eu le notaire de Bruet.
Oui, oui.
Voilà, ben, c'est toute cette... le notaire de Bruet, on y est allé, nous, aussi.
Oui. On n'a pas...
Mais Olivier Roland a dit que c'était une grosse faute.
Énorme.
Mais tout ce qui est comité vérité et justice, c'était très 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 limite, parce que l'idée que la justice bourgeoise doit être remplacée par une justice populaire, on sait très bien ce que ça donne. Et là, c'est vrai qu'on s'est heurté très très vite à cette difficulté-là. Hein. Dès qu'on s'est installé avec notre écriteau, notre pancarte Comité Vérité et Justice, on a vu débouler des tas de gens qui avaient des rancœurs, des difficultés avec la justice ou avec d'autres gens, etc. Et on faisait que des conneries. C'est-à-dire, il y avait des gens qui venaient nous voir en disant c'est injuste, voilà, on m'a enlevé ça, on m'a enlevé ce truc. On commençait à lutter avec eux. Puis il pouvait y avoir les militants d'à côté, de la ville d'à côté, qui recevaient d'autres gens qui leur disaient c'est injuste, ça. Et on se rendait compte qu'on avait les deux thèses.
Ouais.
Et qu'on était en train de.
Enfin, toutes ces histoires de justice, oui, c'est toujours complètement.
Horrible. Ouais. En même temps, c'est vrai aussi qu'il y avait des choses qui étaient des vrais scandales judiciaires. Ouais, hein. Ouais. Yvonne Huriez, par exemple, donc le truc sur lequel
on ne va pas raconter ça en détail.
On va pas raconter en détail, mais son fils s'est suicidé pendant qu'elle était en prison pour avoir volé un.
Oui, mais enfin, même là,
c'est rien, etc. Donc on a eu quand même beaucoup de.
On intervenait sur tous les fronts, et donc pour chaque fois qu'il y avait comme ça. Des choses, il y avait des. Nous, on était dedans, mais il y avait autour des gens qui se mobilisaient. D'accord. Et c'est un peu avec ces gens qui éventuellement s'étaient mobilisés autour qu'on a vécu en communauté. C'était des petites communautés, mais c'est une année où, autour de nous, militants ou pas militants, les gens ont expérimenté d'autres formes de vie. En particulier, on fait à peu près exploser tous leurs couples. Les uns après les autres, où on vivait des vacances ensemble, on s'échangeait énormément les enfants, mais aussi on. Voilà.
Tout. On échangeait tout.
Et vous êtes restés ensemble quand même.
Ouais. Mais nous on est invincibles.
Non, mais on est plus fort. Ouais, ça n'a pas été forcément facile, mais ce qui s'est passé donc, c'est que à la fin de l'année
76,
là, on s'est dit qu'on n'avait plus rien à faire là. C'est-à-dire qu'on ne militait plus du tout. Ces histoires de communauté et tout ça, ça.
On avait été jusqu'au bout, et vraiment jusqu'au bout, c'était
effusant. Ça tournait à des trucs qui n'avaient plus aucun intérêt. Et donc là, on décide de partir. Mais on ne pouvait pas rentrer à Paris, c'était impossible.
Non.
Donc on décide de partir loin, dans un pays, mais quand même francophone, parce que Anne ne parlait pas anglais.
D'accord.
Donc on avait le choix, c'était ou le Cambodge ou le Québec. On a choisi le Québec.
Voilà.
C'était un an ou deux ans avant Pol Pot. Hein. On a vraiment eu du bol. Et donc on s'est retrouvé au Québec et là on a vécu 7 ans donc.
Avec cette histoire d'expulsion.
Avec voilà, entre deux cette histoire de, on a failli se faire expulser mais bon, donc on a gagné, on a fini par rester, etc.
D'accord.
Voilà.
Et puis vous êtes revenu à Paris
Non, on est revenu à Caen.
On est revenu à Caen après.
Caen, oui.
Ouais. Donc ça, c'était en 80.
On voulait pas, nos enfants ne voulaient pas venir à Paris, c'était, on est revenu en 84.
84.
On est revenu dans une ville où il y avait une école parallèle. On avait mis nos enfants dans des écoles expérimentales. On ne voulait absolument pas entendre parler de revenir aussi, encore une fois, dans les traces et dans les. Donc même encore dans les années 80, on était. Oui, il y avait un lycée expérimental à Hérouville-Saint-Clair et on a choisi notre lieu de retour pour ça. On n'avait de toute façon pas de boulot. On rentrait, on avait 35 et 38 ans, on n'avait pas de boulot.
Si, quand même, on avait un boulot.
T'avais une promesse de boulot.
Une promesse de boulot. Donc voilà, et donc là, quand je suis parti donc, au Québec, j'ai abandonné mon poste à la fac, puisque j'avais toujours mon poste à la fac.
Moi, j'étais devenu un stit. J'ai démissionné aussi de la fonction publique.
Vous étiez un stit à cet endroit.
À Aumont, oui, dans cette région.
Et donc là, j'ai refait une carrière universitaire au Québec.
Oui.
Et puis on a quitté le Québec et j'ai refait une carrière universitaire en France.
Et vous êtes devenu linguiste ou.
Je suis devenu informaticien linguiste, entre les deux, sciences du langage. Disons.
D'accord.
Et je le suis encore aujourd'hui.
Voilà.
Voilà l'histoire.
Voilà, c'est formidable. Voilà,
et moi, j'ai démissionné deux fois à la fonction publique. Ce qui est quand même. Je suis la seule personne que je connaisse qui a démissionné deux fois à la fonction publique française.
Et l'autre fois,
quand je suis revenue, moi, j'ai fait des études de bibliothécaire. Je suis devenue bibliothécaire. Et j'ai été employée donc par la commune d'Hérouville-Saint-Clair. Et au bout de quelques années, j'en ai eu marre et je suis partie. Enfin, je suis maintenant à nouveau bibliothécaire, d'ailleurs.
D'accord.
Je m'occupe de bouquins pour enfants. Et de... En fait, j'ai réinvesti. Je travaille exactement comme je militais dans le temps. Plus ça va, plus je m'en rends compte. C'est drôlement intéressant quand même parce que.
Je suis arrivé. T'es plus tiré, toi, non?
J'ai changé d'idée sur vraiment beaucoup de choses. J'ai un regard critique, évidemment, sur beaucoup de choses. Mais en fait, dans ma façon de... Quelle heure il est?
90.
Tu voudrais pas...
On est sur le point de terminer.
Oui.
Mais
ce que tu pourrais faire, excusez-moi, ce que tu peux faire, c'est téléphoner à Cécile, parce qu'il pourrait nous appeler probablement aussi. Téléphone pour savoir s'il y a des nouvelles, ou dis-lui que je vais venir.
On peut continuer comme ça. Est-ce que vous pouvez me dire, en ce qui concerne la continuité ou le changement d'idée, quels sont vos sentiments d'aujourd'hui sur cette période-là?
Ça devient de plus en plus difficile de parler de ça, quand même. Oui. À la fois parce que ça me paraît en même temps extrêmement proche quand on évoque tout ça.
Oui.
Sûrement plus que pour quelqu'un comme Olivier qui a pas de mémoire, il a dû vous le dire.
C'est ce qu'il m'a raconté, mais c'est pas tout à fait vrai.
Si, c'est quand même. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce qu'évidemment, il a. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais c'est quand même quelqu'un qui, de fait, a quand même des pans entiers de de souvenirs qui sont pas là, quoi. Moi, j'ai l'impression parfois que c'était vraiment hier, que je suis dans la peau. Je vous parle de Cambrai. Je me vois encore dans cet appartement de Cambrai, etc. Et puis, en même temps, ça fait bientôt 40 ans quand même. Ce qui fait qu'en fait, il y a les fils. Mais là, je pense que je suis assez proche d'Olivier d'ailleurs, qui est un grand ami. Je ne renie rien, j'aime ce que j'ai été en même temps, cet engagement, et en même temps, évidemment que je pense qu'on était totalement à la masse, qu'on s'est trompé sur à peu près tout, qu'il y a des choses qui n'avaient pas de sens, et puis bon, politiquement, effectivement, j'aimerais bien quelquefois avoir l'espèce de naïveté que je pouvais avoir et de... côté manichéen, les bons, les méchants, la gauche, la droite, mais voilà, je me sens que j'ai une pensée à la fois plus complexe et du coup plus difficile à énoncer.
Mais vous avez dit au début qu'il y aurait peut-être une explication psychologique pour tout cela. Parce que c'est comment expliquer pour des gens comme moi de l'extérieur, comment expliquer ce...
Cet engagement absolu.
Cet engagement, oui, jusqu'au fond, pendant des années, c'est extraordinaire.
Alors d'abord, pendant des années, c'est vrai que ça a été très intense, mais finalement pas si long que ça. Il faut bien voir que ça correspondait pour moi et pour d'autres à notre extrême jeunesse.
Oui. Hein.
Moi, ce que je comprends mal, très mal, c'est Sartre, c'est des gens comme ça, c'est des intellos qui nous ont soutenus quand même.
Oui.
Ça, moi, je leur en veux parce que je trouve ça incroyable. Je trouve que quand on a 15 ans, 20 ans, vouloir changer le monde, je continue à penser que c'est plutôt bien, plutôt plaisant.
Il sort pas ce soir, donc visiblement, il n'a pas encore les résultats du scanner, tout ça, mais ils sont en train de chercher une chambre au 5e, parce qu'il est en fait dans les urgences toujours. Mais dans une chambre.
Bon, je vais finir.
Donc il faut y aller relativement vite.
Oui, mais deux minutes.
Oui.
Votre point de vue d'aujourd'hui sur ces événements-là.
T'as répondu déjà ?
J'ai répondu déjà.
Ce que je pense, c'est que moi, je regrette absolument pas ce qu'on a vécu à ce moment-là et la manière dont on s'est impliqué. Parce qu'au fond, on n'a jamais été dans le mensonge. C'est-à-dire, ce que je ne supporterai pas aujourd'hui, c'est d'avoir fait de la politique, surtout cette politique violente, c'est-à-dire cette politique qui était quand même qui a engagé des vies, des machins, même si on n'a jamais été jusqu'aux assassinats. Mais on a bouleversé un peu là. Donc je regrette pas du tout parce que je l'ai fait en toute bonne foi, c'est-à-dire avec un idéal qui était constamment un idéal auquel je n'ai toujours pas renoncé, qui est un idéal de bonheur de l'humanité, etc.
Ouais.
Alors, maintenant, très, très objectivement, je dois reconnaître qu'on a fait des choses très bien. Par exemple, le truc des mines, non seulement je ne regrette pas, y compris le cocktail Molotov, mais je trouve que on a contribué de façon décisive à ce que l'idée qu'il n'y a pas de fatalité dans les accidents du travail est devenue maintenant...
C'est imposé même, complètement, oui, c'est vrai.
Non seulement c'est imposé, mais même maintenant, on est un peu ulcéré par l'autre côté, c'est-à-dire on ne peut plus marcher sur un trottoir sans tomber d'un trottoir sans qu'il y ait un procès parce que le trottoir il était trop haut par rapport à bon donc ça nous maintenant ça m'énerve un peu mais l'état dans lequel on était avant était absolument insupportable donc c'est donc là je pense qu'on a joué un rôle positif sur un, c'est un exemple mais
sur le MLAC aussi enfin le MLAC aussi a joué extrêmement positif
voilà l'évolution d'un certain nombre de choses maintenant on a fait aussi des énormes quelque chose d'énorme d'une certaine manière on a donné à toute une à toutes les générations qui nous ont suivis parce qu'on a été quand même pendant un certain temps adulés par on a donné l'impression qu'effectivement il y avait encore une issue dans le communisme c'est-à-dire que on a été complètement trompés nous-mêmes par le maoïsme et ce qui se passait en Chine et donc voilà on a contribué aussi à ce que je trouve ce qui est pire dans la politique c'est à savoir le mensonge d'État le fait que bon donc je suis très très mitigé sur l'effet de nos luttes je pense qu'il y a eu des côtés positifs et des côtés très négatifs aucun regret personnel d'avoir participé à cette aventure et l'impression aujourd'hui que quand je dénonce certaines attitudes dites de gauche, je ne suis pas un traître. Je suis au contraire dans la droite ligne. Une des choses qui me frappe le plus dans notre génération, qui a vécu 68. C'est que c'est là qu'on trouve ce qu'on appelle les bobos. Donc c'est là qu'on trouve une grande partie de gens qui sont dans la même situation que moi, qui sont tout à fait capables, qui ont la même lucidité sur l'état de la France, et qui continuent à être de gauche, voire d'extrême gauche, par fidélité, c'est-à-dire avec l'idée qu'ils vont trahir. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que pendant toute cette période 68, nous, on a dit ça, on a dit nos parents nous ont trahis, nos parents sont devenus des vieux cons, ils étaient des jeunes résistants, etc., ils sont devenus des vieux cons, Et donc, la hantise de devenir vieux con comme ses parents est quelque chose qui a beaucoup marqué notre génération.
D'accord.
Je pense pas que c'est la seule, d'ailleurs. Non. Mais la nôtre, ça a été particulièrement fort. Ouais. Et ça explique beaucoup d'attitudes aujourd'hui de gens qui sont incapables, par exemple, de critiquer, je sais pas moi, la façon dont la gauche se conduit pour les retraites, pour des questions de cet ordre-là. Moi, j'ai aucune... je suis complètement décomplexé par rapport à ça. Je trouve qu'effectivement, il y a des avantages acquis qu'il faut supprimer. Je suis de droite de ce point de vue-là, si vous voulez. Mais j'ai l'impression de garder toujours les mêmes idéaux de justice, etc. Seulement, quand on ne croit plus qu'il y a une solution du côté du socialisme et qu'on se résout à vivre dans une espèce de capitalisme qu'on espère le plus social possible, etc., eh bien, on n'a plus le droit de penser que, les ouvriers ont toujours raison, que les patrons sont tous des... il faut les prendre par les couilles, etc. Ça n'a plus de sens, tout simplement.
D'accord. Bon, très bien. Je vous remercie de votre témoignage.